Antoine Léonard Mastratti, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez reçu le prix du public et le prix spécial du jury, le coup de cœur du FIGRA 2009.
Oui, et je dois dire que c'est le meilleur public du monde.
Pour un film, un documentaire qui s'appelle ?
Le documentaire s'appelle Clavel, l'enfant numéro 13.
Donc Clavel, c'est au départ un enfant, maintenant il est un peu plus grand. Il a une histoire tout à fait étonnante et bouleversante.
Son histoire, c'est un enfant rescapé du génocide rwandais qui est arrivé en France mourant en 1994. Donc le génocide n'était pas tout à fait terminé encore. Il est arrivé avec une trentaine d'enfants et puis on l'a accompagné. Il n'a pas marché pendant 5 ans, c'est-à-dire qu'il était en chaise d'infirme pendant 5 ans. Il a subi une vingtaine d'opérations. Il avait reçu une grenade dans une jambe. Et psychologiquement, il avait toute sa famille, une quarantaine de personnes qui avaient été exterminées. Donc il n'a pas marché pendant 5 ans. On l'a soigné, on l'a remis debout. Il est toujours handicapé parce qu'il a une jambe raide et une jambe un peu atrophiée parce que cette jambe souffrait de n'avait plus le cartilage de croissance, donc on l'a allongé artificiellement de 21 cm. À partir du moment où il s'est mis debout, on a décidé, puisqu'il habitait chez moi à la maison, on a décidé de lui faire faire du sport, puisqu'on s'était dit, c'est un enfant qui a été privé de sa jeunesse. 5 ans, il avait 8 ans, donc il en avait 13 à ce moment-là. On va le mettre dans un collège où il pourra faire du sport, donc un collège qui recevait des enfants handicapés moteurs et des enfants valides. Bien nous en a pris, puisqu'au sport, il s'est révélé être un grand champion, puisque dès l'âge de 16 ans, à Villeneuve-d'Ascq, ici, il a été vice-champion du monde, c'était sa première compétition. On l'a mis là pour l'essai, l'équipe de France. Ils avaient constaté qu'il avait les qualités, ils l'ont mis là, il a été vice-champion du monde, aux 100 mètres ou aux 200 mètres, je ne sais plus. Ensuite, il a fait les Jeux Olympiques, où il a ramené 2 médailles d'argent à la France. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de faire un voyage, un peu pèlerinage, Rwanda, dans son pays d'origine, pour essayer de retrouver les survivants de sa famille. Il a retrouvé une tante, notamment, un frère. Parce que son frère, c'était fort, parce que c'est le seul frère sur 7 frères et sœurs qu'il avait, qui est resté vivant. Et il a renoué, comme ça, avec ses racines. Voilà, en gros, ce que raconte le film.
Alors, c'est vrai que ce genre de film, ça peut être aussi un piège, parce que dans la mesure où vous êtes carrément impliqué dans la production du film, dans la réalisation du film, le fait de parler de quelqu'un qui vous est quand même très proche, ça peut parfois poser des difficultés. Est-ce que vous avez, au départ, bien analysé dans quelle aventure vous vous engagiez ?
J'avais totalement conscience des difficultés que ça allait poser. Mais pour... D'abord, ça me posait effectivement des difficultés, mais je trouvais qu'il était sain que cet enfant, avec ce jeune homme-là, qui avait quitté son pays à l'âge de 8 ans dans des circonstances dramatiques, puisse renouer avec son pays. Pour renouer avec son pays, il ne pouvait pas y aller tout seul. Il avait perdu sa langue maternelle, donc il ne parlait pas le kinyarwanda. Sa famille ne parlait pas le français. Et puis, il y a quand même une certaine appréhension d'aller retrouver ces assassins, puisque les assassins au Rwanda sont en liberté. On les a libérés à partir du moment où ils ont reconnu leur crime, on les a remis en liberté. La maison qui est la voisine de la maison des survivants de sa famille, c'est une maison d'assassins. Donc, y retourner tout seul, c'était pas possible, parce que la peur, etc., etc. Donc le film était en même temps qu'un film, le moyen de permettre à Clavel, puisqu'il s'appelle Clavel, de retrouver ses racines et de les retrouver avec moi qui était son père adoptif, donc en ayant un certain sentiment de sécurité, et de le retrouver aussi puisqu'on tournait avec un interprète qui pourrait faire le lien entre lui et sa famille. Alors après, moi effectivement je suis réalisateur et je suis en même temps le père adoptif de cet enfant. Mais bon, j'ai un peu de bouteille, j'ai l'habitude de faire des documentaires et je dois dire que là-bas, je me suis comporté en réalisateur qui devait témoigner de choses précises. Donc je n'ai pas oublié que Clavel était mon fils adoptif, mais j'ai pu faire mon métier de réalisateur. Le seul problème qui se posait, c'est de ne pas être omniprésent dans le film. Je ne le voulais pas. Donc j'essaie sans arrêt, et là je trahis un peu la réalité, d'être très très discret. Mais le film était sur Clavel, il n'était pas sur son aventure au sein de ma propre famille. Donc c'est un problème presque matériel là, parce que comme j'étais au milieu, mais en même temps je filmais, puisque j'ai toujours moi une caméra à la main. Hein. J'avais une caméra Woman là en l'occurrence, et moi j'avais aussi ma propre caméra. Donc comme je filmais tout ça, j'ai pu m'extraire relativement facilement.
Alors c'est vrai qu'il y a un passage où le risque était important et vous avez su déjouer ce piège, c'est où Clavel rencontre sa tante.
Oui, Clavel rencontre sa tante et sa tante a une envie très forte, c'est de venir m'embrasser et de me remercier. J'ai réussi à me tenir à l'écart et il y a une scène là qui est absolument, moi je trouve, même sur le terrain, c'était d'une force émotionnelle inouïe. Cette femme qui a tourné, ça a duré une heure, elle a tourné autour de cet enfant qu'elle avait connu enfant, qu'elle croyait mort, après qu'elle a su... Elle a su qu'il était vivant, mais elle croyait qu'il était en chaise, qu'il ne marchait pas, etc. Elle a tourné autour de Clavel pendant une heure, comme une poule qui a retrouvé son œuf. C'était absolument fantastique. Elle parlait toute seule. Mais tu es là, mais c'est bien toi, mais tu es sûr que c'est toi, mais tu es vivant. C'était presque des questions, tout ça. Tellement elle ne croyait. Pour elle, c'était un miracle. Et en tant que là, observateur, moi, même si j'étais partie prenante, j'étais aussi observateur. C'était effectivement, j'assistais à un miracle, parce que au miracle, je n'y crois pas trop. Il suffit que les gens y croient pour que le miracle existe. Et là, il a existé pour cette femme et pour la famille, pour le frère qui lui restait, etc. Il y a une scène qui s'est passée là, qui est une leçon de dignité, de beauté. Les sentiments sont exprimés tout en pointillés avec une pudeur. Cette scène est magnifique. C'est très très beau et très émouvant à la fois, et Clavel qui n'avait pas les mots, en plus il n'y avait pas les mots, mais ça communiquait avec les regards, ça communiquait avec le toucher, elle lui caressait la joue, elle lui caressait la tête, moi j'ai trouvé cette scène dans le vécu, l'image de la caméra restitue pas mal les choses, mais j'ai trouvé cette scène d'une force et d'une humanité et d'une dignité. Là, on a l'habitude en plus. Ce qui m'a plu beaucoup dans cette scène, c'est qu'on a des clichés sur l'Afrique. On a boum boum, le tambour, on a les gens qui dansent, etc. Là, c'était d'une sobriété. Il n'y avait pas les pleureuses, il n'y avait rien, il n'y avait pas de cinéma. Il y avait l'émotion à l'état brut qui passait comme ça, mais avec une retenue. Quand même, elle raconte le drame, il y a une retenue dans les mots, ce sont des mots simples, c'est... Je suis admiratif de cette famille et de la façon dont ils ont accueilli Clavel.
Le fait que la caméra soit là, ça change quoi pour ces retrouvailles ?
Rien. Rien. Parce que la caméra, on ne voit pas un seul moment un regard sur la caméra. La caméra, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et là, je crois que j'ai eu un gros avantage en étant le père adoptif. Ils ne recevaient pas une équipe de tournage. Il recevait le père adoptif de Clavel, celui qui l'avait élevé, qui l'avait emmené jusque-là et qui le ramenait à sa famille. Donc le fait que j'ai une caméra, c'était mon problème, c'était pas le leur. Jamais ça n'a été le leur. Alors, non, jamais, jamais. En plus, l'équipe, j'avais réduit l'équipe au minimum. Hein. On n'a pas mis d'éclairage dans la maison, on a tourné sans artifice. Je posais les questions, c'était le père qui posait les questions. Il répondait au père, et il répondait à un monsieur envers lequel ils avaient de la reconnaissance, parce que finalement, c'est lui qui ramenait l'enfant de la maison vivant et debout. Donc la caméra... Non, il y a même la pudeur dont ils ont fait preuve n'était pas liée au fait que la caméra était présente. La caméra n'a jamais été présente. Et l'équipe, je répète, l'équipe était légère. J'avais pris une caméra Woman précisément parce que je trouvais qu'une femme, c'était plus discret. Ils ont reçu l'équipe comme les membres de ma propre famille à moi. Donc elle était fondue avec moi. C'est jamais l'ombre d'un problème pour l'équipe.
Par contre, la caméra, ça permet de témoigner. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu exprimer? Bon, bien sûr, nous, on l'a vécu en tant que spectateur. Est-ce que vous aviez déjà au départ une intention de démontrer, de prouver, de mettre en évidence des choses dont vous pouvez parler?
Oui, ce film est un message, en fait. Il n'est pas tourné comme un message, mais c'est un message. C'est un message d'espoir. Quand vous avez un enfant qui a vécu les atrocités, l'horreur inimaginable, on ne peut pas imaginer ce qu'il a vécu. Caché sous les morts, on vient le récupérer, on le tire du tas des morts, on dit bon, on va le tuer au pinon, on va le laisser pourrir là, etc. Donc, on ne peut pas imaginer ça. Et puis, cet enfant se reconstruit, se met debout après 5 ans et devient vice-champion olympique. Ça veut dire quoi? Ça, c'est pas que l'histoire de Clavel, c'est l'histoire de quelqu'un qui était dans des difficultés dites ou supposées insurmontables, et puis qui fait sa vie et qui vit aujourd'hui comme un jeune homme normal. Et non seulement ça, mais il est premier. Peut-être est-il premier parce qu'il a vécu ça, mais justement, ça veut dire que quoi qu'il nous arrive dans la vie, je crois que la vie, c'est la seule chose que nous possédions réellement. Il n'y a rien de plus cher que la vie, on peut toujours se relever. Bien évidemment, c'est toujours en fonction d'une rencontre qu'on va faire, mais des rencontres. Je veux dire que nous, notre rôle à nous, parents adoptifs, c'est un rôle naturel. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin, ou alors vous n'êtes pas normal, vous lui tendez la main pour qu'il se relève. Donc je crois qu'on peut tous rencontrer des gens qui vont nous tendre la main. Il y a beaucoup plus de gens dans le monde sympathiques que de gens assassins. Autrement, l'humanité n'existerait plus. Donc c'est un message d'espoir pour les jeunes surtout, parce que des jeunes en difficulté, ou économique, ou sociale, ou physique, il y en a. Il y en a beaucoup, en plus, avec la crise de notre monde, il y en a beaucoup. C'est pas désespéré. On peut se relever, et Clavel, c'est ça l'exemple, c'est ça le message.
Alors, évidemment, Clavel doit beaucoup son rôle de numéro un dans son domaine à toute l'attention que vous lui avez apportée et aux conditions que vous lui avez données pour se réaliser en tant qu'homme.
Il ne doit pas.
Attendez, je continue. Mais en même temps, quand on voit sa famille, elle aussi, sa famille, elle a cette énergie vitale. On la retrouve des deux côtés. Je veux dire que le fait qu'il soit premier, le fait que sa famille ait surmonté aussi ce même traumatisme, mais localement, je trouve qu'on retrouve la même énergie dans les deux camps.
Oui, mais sans doute, là, vous soulevez un point qui me paraît important. Sans doute, Clavel et nous-mêmes avons eu la chance d'avoir un enfant qui avait vécu une enfance normale, entourée d'affection, dans une famille qui était là pour construire et qui n'était pas une famille qui ne se préoccupait pas de ses enfants ou de la vie en société. Donc sûrement oui, quand on voit la famille de Clavel, on a eu la chance, Clavel a eu la chance d'appartenir à une famille... Une famille normale, pleine d'affection, pleine d'attention envers les siens. Effectivement, là, on voit... Et puis, ce sont des gens debout, mais attention, ce sont des gens debout qui vivent dans la peur. Parce qu'au Rwanda, aujourd'hui, c'est le calme, il n'y a plus d'assassinats, mais ceux qui ont fait ça rêvent d'achever le travail un jour. Ils ont quand même réussi à tuer la majorité de Tutsis qui occupaient le pays. C'est un génocide, on tue... Un enfant, une mère, un vieux, parce qu'il est né Tutsi. Comme on tuait le juif parce qu'il était né juif. La communauté rwandaise, connement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, a choisi un bouc émissaire, il les appelait les cafards. On allait à la chasse aux cafards et on les tuait. Donc la famille aujourd'hui vit encore avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et nous sommes rendus compte avec deux, trois... petites anecdotes comme ça, qu'ils avaient encore peur.
Alors bien sûr, ce genre de génocide, de la guerre civile en général...
C'est pas une guerre civile.
Ces conditions particulières entraînent notamment Clavel à considérer l'homme, l'individu, autrement par la suite. Et quand je dis l'homme, je veux dire considère aussi la femme autrement, parce que il a été trahi deux fois par des femmes, ce qu'on voit bien dans le film. Mmh. Et là, c'est un peu le moment aussi de remettre la balance dans l'autre sens. Le fait de faire ce film, il a aussi servi à ça ?
Peut-être, oui, parce qu'en rendant publiques les choses, en les exprimant devant quand même un nombre de gens considérables, puisqu'à partir du moment où on fait un film, même si on a une petite audience en télévision, puisque ce film est passé sur la télévision, il y a quand même 2-3 millions de gens qui vous regardent. Donc effectivement, ça permet d'évacuer des choses. Et effectivement, auprès des femmes, il avait des problèmes parce que sa mère n'a pas pu, quand elle croyait pouvoir sauver un bébé et sa sœur, n'a pas pu l'emmener puisqu'il était blessé. Elle est morte 100 mètres plus loin. Mmh. Mais elle lui a dit, écoute, toi, tu vas mourir, je te laisse là. Donc, oh, c'est pas une trahison, c'est une nécessité que la mère a fait un choix. Mmh. On peut pas. On aurait sans doute fait le même. Et puis, une deuxième fois, une femme qui vient, qui le trouve caché sous les morts, et qui dit, celui-là, il faut le tuer. C'est un peu dur. Mais Clavel, on a regardé, on a répété, on a re-répété toujours ses récits, etc. On les lui a fait raconter, on a trouvé chaque fois des détails, etc. Et il a appris quoi en répétant tout ça? Il a appris que la bêtise humaine existait, que la violence n'était jamais une solution, et que finalement, c'est le verbe qu'il fallait favoriser. Il est devenu comme ça. Et comme il a appris en même temps que la majorité de l'humanité était plutôt meilleure que mauvaise, il a regardé l'homme en reprenant confiance. Il avait perdu, mais il a retrouvé cette confiance. Et aujourd'hui, Clavel est humaniste. On peut dire que c'est un humaniste. Il aime l'autre. Il est très tolérant. Il ne supporte pas, par exemple, de handicapé mental qu'on dise c'est un fou. Il dit non, tu ne dois pas dire ça. C'est un malade.
Alors, ce jugement que vous avez sur la nature humaine, qui serait globalement positive, on va dire, optimiste, peut-être que c'est ce qui l'a nourri, qui lui a donné cette force.
J'espère, parce que moi j'aime bien communiquer cet optimisme-là, mais je crois que si nous tous, dans notre vie quotidienne, dans notre quotidien, si on regarde le monde, on se rendra compte que le monde est beau. Il y a des horreurs dans ce monde, mais le monde, globalement, est beau. Si on regarde regardons l'histoire de l'Amérique, et l'Amérique qui fait une élection et qui porte un noir au pouvoir, alors qu'il y a quelques années, il y avait la ségrégation et le noir était moins que rien. C'est quand même un grand espoir pour l'humanité, ça. Et puis des exemples comme ça, on a des montagnes. Le problème de notre humanité, c'est qu'on fait la guerre et on prépare après les réparations, voire en même temps, des ONG qui vont aller soigner les gens sur lesquels on a tiré. C'est l'absurdité. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup plus de volontaires pour aller soigner que de volontaires pour aller tuer. C'est ceux dont c'est le métier qui vont tuer éventuellement. C'est pas la majorité des peuples qui tuent. Donc non, moi j'ai espoir dans l'humanité, heureusement, mais je crois qu'on peut avoir espoir dans l'humanité.
On va conclure sur ce message, donc Antoine Léonard Mastratti, et peut-être dire... pour les gens qui nous écoutent, que cette force que vous avez, cette force que Clavel a, chacun peut aussi l'avoir.
Chacun l'a en soi, moi j'en suis persuadé. Chacun l'a en soi. Non, je répète, la seule chose que nous ayons les hommes, c'est pas... Bien sûr, il y en a qui ont des palais, il y en a qui ont des masures, mais la seule chose que nous ayons vraiment, c'est la vie. Et la vie, ça vaut la peine. Et quoi qu'il nous arrive dans la vie, je suis persuadé qu'on peut se relever.
Merci.